Alors, ici, là, c'est une image qui est intéressante. Rien que par rapport à l'image, qui connaît l'histoire? Ok, le paralytique. C'est ça, donc c'est l'histoire du paralytique. Et j'ai intitulé ce message, je l'ai rafraîchi un petit peu au goût du jour, je l'ai intitulé, donc là ça marche pas non plus, c'est pas grave, donc j'ai intitulé Quatre potes et un malade. Quatre potes et un malade. Pour les moins jeunes, c'est quatre amis et un malade. Pourquoi j'ai intitulé ce passage-là? Souvent dans ce passage-là, on se concentre vraiment sur la guérison, mais je pense vraiment que ce temps-là, je suis perturbé avec les écrans, veuillez m'excuser. Je ne vais pas regarder les écrans, je vais vous regarder vous. Mais ce temps-là, en fait, je trouve cette histoire magnifique. Je trouve vraiment cette histoire, tout autant, elle est très très courte, mais tout autant quand on imagine la scène, on pourrait en faire un film. Tellement que c'est quelque chose de fort qui se passe. Donc quatre potes forts et un malade. Une aventure solidaire. Ça marche? Ok, merci. Donc je vais vous inviter à prendre le passage dans Marc chapitre 2 versets 1 à 12 et on va le lire ensemble et ensuite on va regarder un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer dans leur tête à ces gars-là. Donc ici, hop, hop, ok. Donc, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture. Le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit, Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralysés, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébrèrent la gloire de Dieu en disant, Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Quel passage! Le paralysé qui est guéri. On va prendre un petit peu le contexte de l'époque. Il faut prendre en compte que dans Marc chapitre 1, juste avant, on voit un petit peu le parcours de Jésus, donc comment il s'est baptisé, toutes ces choses-là, mais on voit également que juste avant, Jésus enseignait à la synagogue à Capernaum. Donc il était déjà rentré un petit peu dans son appel, dans son ministère. Et juste avant, qu'est-ce qui s'était passé également? Jésus avait chassé des démons. Et en fait, la réputation de Jésus avait commencé à grandir d'une manière tellement immense que à chaque endroit où il allait, il y avait toujours foule. Et un petit peu avant également, on le voit qu'il rentre dans une maison et qu'il chasse la fièvre de la belle-mère de Simon. Donc c'est pour vous dire que Jésus était dans un moment de sa vie où beaucoup de miracles étaient en train d'être accomplis. Beaucoup de miracles étaient en train d'être accomplis. Mais c'était un moment où, vous savez très bien, quand quelqu'un gagne en popularité, ou que quelqu'un apporte énormément de gens, de choses aux gens, il commence à y avoir des effets de masse. Et là, concrètement, c'est ce qui s'est passé. Il y avait un effet de masse. Et là, on voit qu'il y a un paralytique qui est dans un lit, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas se rendre là-bas. Il faut prendre un contexte qui est important, c'est que à l'époque, il y avait une fausse idée. Il y avait des fausses idées qui disaient que si la personne était malade, s'il avait une maladie qui était vraiment physique et visuelle, ben on se disait que soit il avait péché, ou soit c'était à cause de ses parents. Et du coup, par conséquent, la personne était rejetée de la société. Et parfois, on pourrait dire un petit peu la même chose dans un autre contexte, admettons aujourd'hui, de nos jours. Cette personne-là, si elle n'est pas riche, c'est à cause de ses parents. Pas forcément. Mais là, d'un point de vue société, c'était un petit peu ça. Si tu es malade, c'est parce que tes parents ont péché ou parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Il y avait vraiment un regard de jugement qui était jeté dans cette société. Alors vous allez me dire, on n'en est pas loin de nos jours. Quand on voit certaines choses sur les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, si tu n'as pas des chaussures de marque, hop, tu te tapes la honte. Si tu n'es pas stylé, voilà. Il y a plein de facteurs comme ça. Mais aujourd'hui, ça va, on a pas mal d'associations qui nous permettent également de nous aider parfois, quand on a besoin de chercher certaines choses ou d'être rassuré également. Et là, il y a cet obstacle qui est là, c'est la foule. La foule empêche le paralytique de pouvoir s'approcher de Jésus. Et là, on voit quatre hommes. Alors, vous allez me dire, il n'est pas dit que c'est des amis. Alors moi, je me dis, ces quatre hommes-là, ils font peut-être plus que certains amis. Et on voit, moi, ce que j'aime bien, c'est leur côté astucieux. Ils ne se prennent pas la tête. Moi, c'est vrai que, premier abord, j'aurais pris le malade et hop, je serais parti. Mais là, non, ils prennent le lit. C'est mon ami, reste un peu dans ce confort-là. On va pas te faire mal, on va t'accompagner quelque part. Et à l'époque, il n'y avait pas de chaise roulante. Il n'y avait qu'un lit. Donc on a pu voir l'image un petit peu comment c'était. Et il y avait un lit. Et il y a quelque chose de profond, c'est l'audace que les amis ont eue. Quelle audace! Ils commencent à prendre le lit. Ils montent au-dessus du toit et commencent à défaire le toit pour pouvoir s'approcher de Jésus. Nous, aujourd'hui, juste à l'idée de se dire « je vais démonter le toit du voisin parce qu'il y a Jésus », on va penser aux assurances. C'est vrai ou c'est pas vrai? On dit « ah, l'assurance !» Et là, rien à faire. Ils sont concentrés sur une chose, c'est voir Jésus. Peu importe les dégâts qu'il peut y avoir, on veut aller voir Jésus et on veut que notre ami soit guéri. Et ce qui me parle dans ce passage-là, c'est cet aspect travail d'équipe. Ce travail d'équipe. Ils se sont coordonnés et parfois, ce n'est pas facile d'être coordonné. Vous avez déjà porté un meuble à quatre? Il y en a un, il veut montrer qu'il est plus fort que l'autre. Ah! Et après, ça tombe. Ou des fois, il y en a un, il est moins fort que l'autre. Et du coup, l'autre va dire, vas-y, je porte tout le poids et tout. Et tu vas dire, mets-toi à mon niveau. Mais tu te mets à son niveau, c'est plus difficile. Et là, ils sont là, ils travaillent en équipe et ils sont coordonnés. Ce qui me parle également, c'est justement cette coordination qu'ils ont ensemble. Ils ont cette coordination. Et si on retransmet ça un petit peu dans l'aspect de ce qu'on peut vivre nous aujourd'hui, que ce soit par la prière, par les visites qu'on peut faire, parfois on est peut-être comme ces amis-là. Parfois, nous, on est peut-être l'ami qui est dans une situation forte et qui doit soutenir un ami qui vit une difficulté. Ou parfois, on est paralysé dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos émotions, dans nos sentiments. Et est-ce qu'on a des potes forts autour de nous? Est-ce qu'on a des amis forts autour de nous? Alors peut-être, peut-être pas. Mais souvent, même quand ça ne va pas, est-ce qu'on ose appeler? Est-ce qu'on ose dire, voilà, là, faut que tu m'aides. Là, faut que tu viennes avec moi. Là, faut que tu me soutiennes. Et concrètement, je pense que c'est difficile dans la société où on est aujourd'hui. Parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup le regard, le paraître. Et dès que ça ne va pas, on va dire « Ah, tu vois cette personne-là » Alors qu'on devrait avoir cette mentalité de famille dans l'Église. On devrait avoir cette mentalité de famille. Moi, je me rappelle avec Caro, quand on faisait la louange à notre ancienne Église, Donc il y avait moi et Caro, on chantait, et il y avait Valentino qui était là avec la poussette. Et instantanément, les gens allaient, ils disaient, restez là, servez, je m'occupe de ton enfant. Je disais, waouh! Naturellement. Et il y a quelque chose qui se produit quand on vit une dimension comme ça. Il y a quelque chose qui se produit. Ça casse la division. Alors que la division veut casser l'unité des mentalités familiales dans l'Église, c'est quelque chose qui va casser la division et qui va recréer l'unité et qui va empêcher les frustrations. C'est quelque chose de réel. Là, on pourrait dire au paralytique, mais laisse tomber. Moi, quand j'étais pas bien, est-ce que tu es venu m'aider? Et là, non, si on se casse, on dit, c'est vrai, il ne m'a pas aidé, mais moi, je vais l'aider. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, il y a l'amour de Jésus, il a besoin de moi. Il a besoin de moi. Et si on rentre dans une dimension comme ça, je peux vous dire qu'on va grandir. Non seulement on va grandir en amour, on va grandir en unité, mais on va même grandir en nombre. C'est automatique. Parce que la Bible dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Malheureusement, on est dans un monde individualiste. Et qu'on le veuille ou non, chrétien ou pas, on est influencé. On est influencé, même par nos propres prières. Souvent, c'est Seigneur, moi je. Seigneur, fais que je puisse. Seigneur, fais que je. Et concrètement, après, on ne fait pas gaffe à celui-là qui a mal à côté de nous. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et il faut oser prendre, avoir de l'audace, avoir de l'imagination. Mon ami va pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ma sœur ne va pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Alors ok, des fois il y a des situations tellement verrouillées, ok, on prie. Mais il y a des situations où il faut aller avec. Et il faut oser, il faut affronter la foule. La foule, parfois, c'est nos pensées, tout simplement. Bah, il va peut-être m'envoyer bouler si je l'appelle. Casse cette foule. Ah, si je l'appelle, il va te dire, bah, de quoi tu te mêles? Casse cette foule. Ça tombe, il attend que ça. On a un Dieu d'unité. Et on doit également savoir porter quelques malades. Ma sœur, tiens-moi ça. Avec tes deux mains. Voilà. Vous allez dire, ah, quel gâchis, c'est pas grave, j'en rachèterai. Voilà. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Regardez. Là, imaginons que sa vie, elle est paralysée dans son cœur, dans ses émotions, dans ses pensées. Elle n'y arrive pas. Bah, des fois, on doit aller se mettre à son niveau, se rapprocher en disant, qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur? Ok. Elle raconte, commence à parler, on prie ensemble. Mais parfois, juste prière. Prier, ça va faire du bien. Mais après, il y a aussi la réalité qui est là. C'est Jésus doit vraiment venir et être la solution. Et nous, on arrive à un moment où on ne peut plus aller plus loin. Donc, du coup, on dit, écoute. Suis-moi. Et là, c'est l'image du paralytique. On ne sait pas le paralytique comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils ont utilisé des cordes ou pas? Mais parfois, la distance, mais on peut créer un lien quand même. Et le fait de créer un lien avec la personne, ça va l'aider. On va lui dire, viens, viens, viens. Et on va peut-être lui dire, bon, ma soeur, ça va pas. Viens avec moi. Ah, c'est pas grave. Il y a le couple pastoral qui est là. Bon, après, Bruno, il va dire, oh, il y a aussi les anciens. Mais c'est là où Bruno, il va dire, ben, ta situation, tel ancien, il va pouvoir bien t'aider également. Tel frère et sœur. Et après, le rôle de celui-là qui va t'accompagner, il va être là, il va dire, ok, maintenant, c'est Jésus maintenant. Jusqu'à un moment donné, ta distance avec Dieu, elle était jusque-là. Mais au bout d'un moment, c'est Jésus. Mais c'est ça qui est important. Je pense que nous devons prendre conscience, mes frères et sœurs, de pouvoir prendre les soins des uns et des autres. Et ce n'est pas facile. parce qu'on a aussi nos propres problèmes. Donc comment jauger les choses? Mais après, je pense qu'il faut se laisser guider par le Saint-Esprit et il faut aussi savoir faire les bons sacrifices. Je pense qu'on est trop dans notre confort parfois et qu'on est trop dans notre bien-être et qu'on est trop dans nos plannings. Je pense que parfois, il faut oser casser nos plannings. Je suis désolé de dire ça. Je pense qu'il faut oser casser nos plannings. Ça nous coûte. Avec Caro, quand on a des réunions, on prend même les enfants avec nous. Ça nous coûte, ça leur coûte. Mais on sait que c'est pour quelque chose de bon. On sait que c'est quelque chose de bon. Après, oui, il faut être sensible au Saint-Esprit. Il y a des moments où Dieu va dire stop. Là, à ce moment-là, moi, je sais que le Seigneur m'a dit, tiens-moi, je veux que tu le consacres à moi. Donc, OK, c'est pas facile. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire pour le peu qu'ils me disent rien. Toutes ces choses-là. Mais c'est une réalité. Et pour ceux qui étaient là dimanche dernier, j'avais parlé du film Rocky 3. Qui est-ce qui l'a vu entre-temps? Vous l'avez vu entre-temps, Rocky 3? Mais ceux qui ne l'ont pas vu, même si vous n'aimez pas la boxe, je ne peux pas mettre l'image ici le dimanche matin, c'est un peu délicat. Mais regardez Rocky 3. Regardez Rocky 3. Il y a une image profonde. Rocky, son coach, il est en train de mourir et il perd le combat parce que sa pensée, il est sur le problème. Et après, au fur et à mesure, on voit la femme de Rocky. Elle le boxe verbalement, mais dans le bon sens, en disant « Réveille-toi, t'es un guerrier. Je veux retrouver l'homme que t'étais. » Bon, nous, on a déjà eu ça de nos femmes hein, quand on fait des bêtises. Hein, ressaisis-toi, toutes ces choses-là. Et c'est normal. Elles sont là aussi pour ça. Elles nous boxent parfois dans le bon sens. Et nous, dans le même sens aussi, dans le bon sens aussi. Hein? Mais concrètement, il faut parfois oser avoir des bons affrontements comme ça. Et dans le film, on voit également, on voit Apollo, qui était l'adversaire de Rocky, qui entraîne Rocky pour qu'il redevienne plus fort. Ça veut dire que là, ils ont passé un cap de fraternité. Et il y a plein d'exemples dans la Bible comme ça également, où il y a eu des gens, ils ont passé un cap de fraternité. Il n'y avait plus cette notion, tel appel, tel ministère, tel onction. Non, c'était là, on combat pour une même cause. C'est Christ. C'est Christ. Parfois, ce n'est pas facile, c'est sûr. Mais c'est Christ. Et quand on rentre dans cette dimension-là, je peux vous dire qu'on va tout casser. On va tout casser. Et là, vous voyez cette feuille-là. Ça c'est des fois, c'est ce qui vient devant nous, les murs. Tout à l'heure, on a parlé justement du loup qui voulait dévorer. Bah, des fois, il vient comme ça pour dévorer nos âmes. Il vient pour dévorer notre foi, pour nous déstabiliser, pour nous casser. Et on est là, et parfois, il y a certaines choses, on va arriver et on va faire « Oh bon, bah, je vais prier. » Et quand tu vas prier, c'est bon. Ça s'est bien passé. Mais des fois, il va rajouter d'autres choses dans ta vie, dans différents domaines de nos vies. Et plein de choses vont s'accumuler. Ça va être les finances, ça va être le couple, ça va être le lave-vaisselle qui a lâché. Non, mais des trucs bénins. On est tellement faible. Si on regarde vraiment, on est tellement faible. Tu vas passer toute ta journée à passer au lave-vaisselle qui a lâché. Alors que tu te dis, ce week-end, tu peux en racheter un autre et tout le reste de la semaine, tu le fais à la main. Ça peut être, je sais pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être les soucis familiaux. Ça peut avoir plein d'impacts, ça peut être la maladie également. Et dans ces moments-là, toi, tu es tout seul, tu essayes de faire, mais tu n'y arrives pas parce que la couche, elle est trop haute. Et c'est là où on doit avoir osé appeler notre frère, notre sœur, en disant « Viens, prie pour moi, s'il te plaît. » Parce que là, tu vas mettre plus de force et là, ça va se casser. Et c'est ça, on doit regarder autour de nous. Qui est-ce qui est paralysé en ce moment? Ben, on va l'aider. Et si nous, demain, on est paralysés pour X ou Y raison, avoir le courage, aide-moi, pour affronter cette foule et monter au-dessus du toit. Et il y a quelque chose qui est important également, c'est Jésus, la démonstration de Jésus. Comme elle est magnifique, sa démonstration. Le malade est guéri, mais avant ça, il s'occupe d'une chose, Jésus. Il ne s'occupe pas de l'aspect physique, visuel, mais ça, il s'occupe de l'aspect spirituel, de son âme. Elle lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et là, il se fait lyncher par d'autres personnes en disant « Oh, et tout ». Et des fois, il y a des personnes comme ça. Ils attendent la moindre chose pour venir derrière toi et te détruire. Et des fois, ça peut être des personnes très proches ou des personnes un peu moins proches. Et ils attendent ça pour te détruire. Et regardez ce que Jésus dit. Et ça, ça m'a fait trop rire. Il dit, pour vous, qu'est-ce qui est plus facile? De dire aux paralysés, tes péchés te sont pardonnés? C'est comme si je pourrais dire à quelqu'un, voilà, tes péchés sont pardonnés, basta. Voilà. Toi, tu es tranquille avec toi, la chose ne s'est pas vue, ça reste intérieur. Et tout d'un coup, Jésus il leur dit, bon, regardez, en même temps, je vais vous montrer à quel point moi j'ai ce pouvoir de pardonner les péchés. Il dit au paralysé, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et là, on voit que Jésus, il a fait une fracture du moral aux ennemis. Hein ? J'aime bien ce terme, une fracture du moral. Il a fracturé le moral des ennemis. Il leur dit, voilà, non seulement j'ai cette autorité-là, mais en plus de ça, je peux guérir les malades. Comme ça, là, ils ne pouvaient plus rien dire. Et concrètement, aujourd'hui, nous avons parfois des situations dans nos vies où on est paralysé. Et il faut s'approcher de Christ et s'entourer de bonnes personnes, de bons potes ou de bonnes copines, hein, vous inquiétez pas. Il faut s'entourer. Il faut s'entourer. Ne pas rester seul, isolé. Parce que c'est ça, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer, et le lion, il commence à faire le tour, et il commence à faire sa petite zone comme ça, et dans la zone, après, tu te retrouves tout seul. C'est pour ça également que des fois, c'est pas bon de plus aller à l'église également parfois. Il est bon de venir. Il est bon de venir. Alors même si tu vas dans une autre église, je ne me prends pas pour cette église ici, mais il est bon parce que tu n'es pas seul. Et quand on est seul, c'est là où ça commence à rôder dans notre tête et on commence à se faire dévorer. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place, pour aider? Des fois, c'est juste un café, un resto, un temps à part. Tu casses ton agenda, tu te dis, lui, il a besoin de moi, je casse mon agenda. Je casse mon agenda. Et au final, tu vas te dire, punaise, au final, dans mon agenda, j'allais m'ennuyer plus que maintenant. Là. Et là, j'ai vécu un bon moment. Il y a également cette chose que j'ai dit tout à l'heure, ne pas vivre pour le moi-je. Cette société nous montre moi-je, moi-je, moi-je. Et des fois, on est trop centré, où il y a le terme un petit peu, j'ai entendu ce terme-là une fois, c'est christocentré. Donc c'est bien, il faut être christocentré, mais si tu es christocentré comme ça, mais pas avec tes potes, bah, tu vas te retrouver bah ouais, que toi et Christ. Mais la réalité, c'est qu'on doit être vraiment ensemble, une famille. Et si on développe cette mentalité familiale, il va y avoir des choses qui vont grandir. Et ce que j'ai reçu vraiment hier soir, et ça colle vraiment avec ce que Alice a reçu, je n'ai pas pu le mettre là, mais je l'ai reçu hier soir, c'était que nous devons croire de nouveau au miracle. Je suis désolé, parfois on ne croit plus au miracle. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? J'ai dit, je sais que tu existes et tout. Et le Seigneur m'a dit ça, il fait, vous croyez en Dieu, vous savez que j'existe, mais la notion visuelle des miracles, vous n'y croyez plus. Alors je dis pas ça pour tout le monde, hein. Il y en a, ils ont certainement... Voilà, ils ont plus de foi également. Mais je pense vraiment que le Seigneur veut axer sur un point comme ça. Nous devons croire de nouveau au miracle visuel. Alors forcément, il y a des guérisons internes, mais nous devons croire au miracle visuel. C'est-à-dire, nous devons croire que les démons puissent être chassés. Nous devons croire que les malades peuvent être vraiment guéris. Nous pouvons croire également que quand on prie pour une personne qui avait le visage triste, tout d'un coup, son visage change. Nous devons croire au miracle. Et pour moi, c'est cela que l'ennemi a fait. En fait, il est très rusé. Il a attaqué notre foi et il a dit, « Ok, je ne vais pas m'occuper à ce qu'ils ne croient plus en l'existence de Dieu. Je vais m'occuper à ce qu'ils ne croient plus au miracle. » Et on rentre dans deux sphères différentes. Et c'est là où on rentre dans la sphère tiède. Et la dernière fois, quelqu'un m'a partagé qu'il avait reçu pour cette église, ici, qu'il fallait redevenir bouillant. Il fallait redevenir bouillant. Parce que les tièdes, Jésus va nous vomir. Vaut mieux être froid que tiède. Et c'est en cela où on a... En fait, quand on croit en Dieu, je pense qu'on ne peut pas se permettre de le limiter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met à croire en Dieu, on commence à croire que tout est possible. Et nous devons croire de nouveau aux miracles visuels, aux choses concrètes. Déjà, premier miracle qui sera visuel, vous savez c'est quoi ? C'est si on arrive à avoir cet esprit de famille. Ça, c'est le premier truc. Si on arrive à avoir cet esprit de famille, ce sera déjà un miracle visuel. Qu'on casse cet esprit de rancœur, qu'on casse peut-être cette... ah mince, j'ai pas les mots, mais vous m'avez compris. Être des potes, quoi. Amitié, fraternité, égalité également. Parce que personne n'est au-dessus de nous. C'était pas prévu. Je vais vous inviter à vous lever. Et si certains ont besoin de prières particulières, n'hésitez pas à lever la main, quoi, on peut prier pour vous. Mais je prêche également à moi-même. J'ai besoin de voir des miracles visuels également. J'en ai besoin. Et je pense qu'on est plusieurs à en avoir besoin, de voir un miracle concret. Alors oui, avant tout, le salut, on est d'accord. On n'est pas là pour vivre que des miracles, mais le vivre en famille, mais le vivre également chez nos frères et sœurs. Moi, je me réjouis quand je vois un malade qui est guéri. Je me réjouis quand je vois des couples qui s'unissent. Je me réjouis quand je vois des personnes qui ont réussi à trouver un travail et qui avaient des obstacles. Je me réjouis quand je vois une personne qui est déprimée, qui commence à se sortir de tout cela. Et c'est ces miracles-là que nous devons voir et ne pas négliger. Et c'est dans ce sens-là où on doit voir aussi cette âme de guerrier. Se dire, oh, remets ton casque du salut. Remets ton bouclier de la foi. Remets tes ailes de l'évangile. Alors pas un zèle arrogant, mais un zèle de l'évangile. Remets ta cuirasse. Reprends ton épée. Quand tu lis la parole, crois. Quand tu pries, le Seigneur croit et ose dire des choses que tu ne vois pas. Parce que la foi, c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas tout de suite. Nous devons croire de nouveau.